drôle d'histoire. Karine Delphini.
Bonsoir. Si l'eau d'un bassin reste sans mouvement, elle devient stagnante et boueuse. Mais si elle s'agite et coule, alors elle s'éclaircit. Tel est l'homme qui voyage. C'est un proverbe kurde. Nos récits seront en mouvement et dans la première demi-heure, une personnalité sera liée au voyage. Jacques Brel, Nicolas Bouvier ou encore Antoine de Saint-Exupéry. Et puis plus tard, nous ouvrirons un livre de nouvelles plutôt délirantes, celle que j'ai choisie par l'également de voyage. C'est une écrivaine suisse qui nous a confié ses pages. Elle s'appelle Sabine Dormont. Alors notre petit baluchon est prêt, on va y glisser une Françoise Rochat, nous en avons besoin pour la réalisation de cette émission. Et puis mettons aussi une Stéphanie Jovanovic, hein, nous aimons la musique, et elle nous a choisi des chansons, par exemple celle-ci.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse. Et l'on passe sans son. Sable
Sarah Lazarus. Nous parlons voyage ce soir et aux Marquises, à Atuona, Jacques Brel s'est installé, se rend à Tahiti pour passer les qualifications qui lui permettront de voler sur son nouvel avion. Et c'est en Polynésie que Jacques Brel rencontre un médecin avec qui il va lier amitié, il va même séjourner chez lui, Paul Robert Thomas. Il a écrit un livre sur Jacques. Le titre fait référence à une réponse de Jacques Brel. « Jacques, que fais-tu le jour ? J'attends la nuit. » « J'attends la nuit », c'est le titre de ce livre, publié aux éditions Le Cherche Midi. Il y a évidemment des tas d'anecdotes, des pensées de Brel. On va nous s'attarder sur une île et des voyages. Une île est un rocher. Immense et dense masse de terre que le marin espère. Il y retrouve ses rêves d'enfant, celui de Robinson. Car c'est l'enfant qui fait grandir les îles et s'y repose quand il est prêt. L'île est un espoir sorti de l'eau. C'est l'oasis des océans. C'est aussi un berceau. C'est là qu'on pose l'ancre. C'est là qu'on se repose. Qu'on regarde le vent et peut-être le temps. Un continent, c'est trop grand et c'est un lieu de guerre. Une île est un asile, un repos. Les frontières sont des pointillés sur le papier. C'est comme l'équateur, personne ne s'est jamais pris le pied dedans. L'homme se limite. Il trace des traits sur des cartes et il pense que tout est réglé. En réalité, il ne fait que créer des problèmes. Une famille, ce n'est pas une maison d'architecte. C'est avant tout de l'amour. Sans porte et sans muraille. Une île, c'est un peu ça, une famille sans barbelés. Ce soir-là, Brel repense à son pays, à son parcours, à son île d'Ivaoa, à la maison qu'il veut construire sur la crête, en face de la large baie d'Ationa, au milieu de laquelle s'érige un roc de verdure, l'îlot Anakei. Là-haut, il aura l'air frais, la vue circulaire sur l'océan déchirée de montagnes superbes. La piste d'aviation n'est pas loin, les départs sont possibles. La terre est territoire, la mer est méritoire. Il évoquait souvent la solidarité des gens de mer, même s'il savait les pirates et autres flibustiers. Les marins ont plusieurs joies. La mer, l'horizon, le vent, la solitude des mers, l'aventure et les îles. Car il nous faut une île. Il faut une montagne dans un pays. Une montagne pour y planter son château. Et comme en Belgique, nous n'avons pas de montagne, nos châteaux sont les cathédrales. On leur imagine même des voiles pour mieux pouvoir rêver. Il pense souvent à son pays plat, à ses familles éloignées, celle de cœur et celle de l'amitié. Brel ne fuit pas. Il m'explique qu'il y a deux sortes de façons d'aller de Bruges à Gand. Soit fuir Bruges, soit être attiré par Gand. Le geste n'est pas le même. Partir ou arriver, ce n'est pas le même voyage. Mais les gens ne comprennent pas cela. Il faut savoir ce que l'on veut et non ce que l'on fuit. La vie est une voie, un chemin, pas une destination. Et puis, il y a les gens qui aiment leur enclos. Les départs ou les arrivées ne les intéressent pas. Ils sont bien où ils sont. Tristan Bernard disait « Ils se croient heureux parce qu'ils sont immobiles. » Cela me rappelle l'ancien aphorisme grec que je lisais lorsque j'étais sur mon bateau. Il y a trois sortes de gens. Les vivants, les morts et ceux qui vont en mer. Jacques le connaissait sans doute. Car cela faisait partie des livres de bord de tout bon marin. Il l'a repris dans une de ses chansons. Il y a deux sortes de gens. Il y a les vivants et ceux qui sont en mer. Et il dit encore... J'ai toujours été fascinée par un poète suisse qui préférait les lacs et les rivières à la mer. Au cours d'une de nos rencontres, cet homme m'a lu un texte sur le ruisseau qui traversait sa prairie. Émue par cette tendresse territoriale, j'ai eu ce soir-là l'idée d'écrire une chanson sur mon pays. Le plat pays, qui était le sien et qui est celui de ceux qu'il aime et qu'il aimait. Jacques Brel ne cessait de dire qu'il aimait sa famille et son pays, la Flandre et la Wallonie confondues. Il souffrait d'un malentendu, né de ses textes, qui n'étaient pas rebelles, mais des écrits de regret face à l'incapacité des peuples à s'ouvrir à l'autre. La provocation est souvent un geste d'amour, mais les gens ne le comprennent que plus tard. Brel avait besoin de ses racines, d'un ancrage, de repères. La Belgique et ses amis faisaient partie de ses repères. Il supportait mal le mauvais procès qu'on lui faisait d'avoir osé taquiner une quelconque Belgique. Il évoquait la flandritude avec nostalgie. Il regrettait simplement le manque d'humour des Flamands. On ne taquine que les amis qui sont susceptibles, sinon ce n'est pas drôle. Je n'ai jamais parlé à une statue. Il est plus d'une heure du matin. Nous bavardons de tout et de rien. Les glaçons craquellent dans les verres. Les cocotiers font chanter leurs palmes sous l'alizé. Le gazon sent une autre prairie. Et le silence de la nuit océane nous imprègne de l'éloignement des îles. Brel a trouvé ici son pays d'attache, celui de son repos comme d'un nouvel élan. Il a 1000 projets et aucun désespoir. On ne s'enfuit jamais. On cherche un autre part.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est. Écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage. Et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris. Un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
Le plat pays, celui de Jacques Brel. Nous poursuivons notre voyage avec quelques personnalités. Il était écrivain, photographe, iconographe et voyageur suisse, Nicolas Bouvier. Oh, ben, il nous en a fait voir des paysages. Un livre hommage lui a été consacré, Le vent des routes, aux éditions Zoé. Plusieurs écrivains ont sorti leurs plus belles plumes pour lui écrire quelques mots. Des oiseaux dans la tête, c'est Bernard Comment qui rend hommage à Nicolas Bouvier.
Thank you.
au marché d'Anarkali, dans la vieille ville de Lahore, grouillante de petits commis, de mendiants, de marchands, de vélos et de rats. Un homme accroupi tient nonchalamment dans sa main le lacet d'un filet gros de plusieurs dizaines de moineaux résignés. Regarde les gens passer, sans effort particulier pour vendre sa marchandise. Et c'est au moment où je me demande ce qu'il peut y avoir de chair à manger sur un aussi petit volatile, que mon guide, attentif à la perplexité sans doute fréquente de ceux qui l'accompagnent, me livre l'utile précision. On n'achète pas ces oiseaux pour s'en nourrir, mais pour les libérer. Ainsi, pour quelques roupies, vous pouvez exercer votre sens de la pitié, de la générosité, et faire s'échapper du filet les petits moineaux. 10, 20, c'est selon le prix offert, qui seront probablement capturés une nouvelle fois après votre passage. Mais qu'importe, c'est par son abstraction que le geste touche à la beauté. Un conte chinois évoque la figure d'un empereur neurasthénique que seul parvenait à réjouir le chant du rossignol ou de quelque autre oiseau musical. On s'empresse alors d'en capturer un, pour le mettre dans une somptueuse cage, à la disposition permanente du souverain, dont on espère qu'il va ainsi retrouver goût à la vie. Mais privé de sa liberté, l'animal chanteur commence de dépérir. Sa valeur thérapeutique se paye au prix fort. Aussi l'empereur décide-t-il de le relâcher, après s'être fait confectionner une réplique mécanique par un artiste de sa cour. Peut-être doit-on voir là une belle fable de la nature de l'art, comme ce qui se substitue à l'absence, au manque. Il y a ces oiseaux vus dans le ciel de l'enfance, ou ces mobiles atteignant parfois au noir des étourneaux dans le ciel automnal de Rome, et toutes ces migrations aperçues, devinées. Un jour on part soi-même, plus ou moins loin, pour connaître les aléas du parcours, la tentation des carrefours, les clins d'œil du hasard, une neige qui vous retient dans une ville pendant quelques mois, ou une crainte qui vous fait accélérer, ou une impression qui vous invite à ralentir la marche. Et ce train annulé, cet hôtel qui vous tente, selon une géométrie toujours plus complexe de désir, de curiosité, face à ce monde qui n'existe pas et qu'il faut pour cela inventer sans cesse, et chacun avec son regard, avec ses mots. Oui, les oiseaux volent, survolent, ils voient les pays, les mers et connaissent tant de choses de la planète. Mais ils ne parlent pas. Ce qui ne nous empêche pas d'attendre leur retour avec impatience, avec émotion. Car il y a leur chant, collé au présent. Oublieux. Oiseaux, messagers sans autre message que celui par nous attribué, du bas de notre sol, de notre territoire. Autrefois, les aruspices traçaient un carré arbitraire, le templum, dans le ciel immense, du bout de leur bâton. Et tout oiseau passant à l'intérieur de ce périmètre sacré devenait porteur d'un sens prophétique ou divinatoire. Et si finalement, on ne voyageait que pour comprendre le vol des oiseaux observés rêveusement dans l'enfance?
Heureuse des bourgeois, Gavril Beaujeanne, où que des sombres gènes, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Réconvient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né, je meurs près de ma mère et je fais mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que onc et le nuit de souhait, impossible elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant son rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits. Vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont donc qu'un besoin de baiser sur les lèvres et loin des songes vains, loin des soucis cuisants. Possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti 10 ans. Gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'ils semblent aller, lentement en grand vol, en forme de triangle, arrivent, planent et passent. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, pas de sumons et bois et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait d'éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un lait leur rompu et du sang plein les yeux. Mourra ces pauvres gens, aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vaut mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes des fous. Regardez les vieux coqs, jeune voix édifiante, rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra, de à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeune voix édifiante, rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra, de à vous c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Les oiseaux de passage, Stéphane Eicher sur la première. Jacques Brel, Nicolas Bouvier et, qui sera du voyage ce soir, un homme qui nous a emmenés dans l'univers magique du Petit Prince. C'est un tout petit passage de sa vie que je vais vous raconter, mais une rencontre très importante, un coup de foudre, un de ceux qu'on trouve dans le livre de François-Xavier Gauroy aux éditions Timé. Et ce texte, il l'a intitulé « Vol de nuit ». Ensemble, ils créent un monde à part, tendre et sauvage comme la planète où le petit prince reste en admiration devant sa rose. Consuelo et Antoine de Saint-Exupéry découvrent leur amour entre la terre et le ciel étoilé. Il y a quelques heures, Consuelo était encore une jeune veuve nimbée de tristesse. Et Saint-Exupéry se croyait condamné à traîner sa solitude pour toujours dans les bars de Buenos Aires. Et puis il y a eu cette rencontre à l'Alliance française. Il n'a vu qu'elle. Il l'a entraînée avec quelques amis jusqu'à l'aérodrome. Comme c'est lui le responsable des lieux, il ne lui a pas été difficile de prendre un avion endormi devant son hangar et de faire asseoir à côté de lui cette Sud-Américaine fascinante. Et les voilà zébrant la nuit noire d'Argentine. qui fait semblant de lancer l'avion vers la mer. Embrassez-moi ou je me noie. Elle se demande si elle a peur de mourir ou d'être aimée. Car il regarde ses mains. Il remarque que ce sont des mains d'enfant. Il la supplie maintenant de les lui donner. Elle se réfugie dans la plaisanterie. « Mais je ne veux pas devenir manchotte. » Mais c'est lui qui doit redevenir sérieux. « Que vous êtes bête. Je vous demande de m'épouser. J'aime vos mains. Je veux les garder pour moi tout seul. » L'atterrissage est particulièrement bien accueilli par les autres passagers. L'ami qui les a présentés l'un à l'autre a vomi sur son costume, peu importe au nouveau couple, pour qui rien n'existe à part eux-mêmes. Ils retraversent la ville jusqu'à la garçonnière de celui qu'elle appellera bientôt Tonio, avec une tendresse maternelle. Il la couche sur son lit. « Ne craignez rien. Je ne vais pas vous violer. Moi, j'aime qu'on m'aime. Je n'aime pas voler les choses. J'aime qu'on me les donne. » Et le petit jour les trouve dans les bras l'un de l'autre.
Que l'on tangue si on nageait ensemble. Quand se glaceront les eaux, quand on portera l'hiver sur le dos, tu me diras que l'on tremble. Moi, je soufflerai les mots qui réchaufferont la plage de ta peau.
Ensemble, Salomé Leclerc. Foule sentimentale, non pas comme la chanson d'Alain Souchon, mais Foule sentimentale, comme un titre écrit en anglais. Sabine Dormont en est l'auteur et on trouve ce recueil de nouvelles aux éditions Mon Village. Assez déjantée, inquiétante, délirante ces nouvelles. Pour rester dans le thème de cette soirée, le voyage, j'aimerais vous lire un extrait de Air conditionné. On peut être seul parmi la foule, plus seul même qu'au fin fond de la contrée la plus reculée, au cœur d'une retraite ou dans le silence infini des grands espaces, quand d'inaudibles fritures brouillent systématiquement toute communication. Oh, j'en sais quelque chose pour avoir emprunté le bus de la ligne 13, un vendredi en fin d'après-midi, et entrepris ainsi, sans m'en douter, un de ces voyages qui ne s'inscrivent ni dans le temps, ni dans l'espace, mais qui nous transportent aux confins de la nature humaine. Aller simple, retour exclu, précisait le billet. Pas très engageant comme formule. Très à contre-courant même, à l'ère de la libre circulation des personnes. Si je ne m'y étais pas déjà trouvé dans ce satané bus, cette formulation aurait à la rigueur pu me dissuader de le prendre. Retour non compris, retour payant, je voulais bien. Retour exclu, fallait quand même pas pousser. De quoi se mêlaient-ils ces transports publics? C'était ma vie après tout, et il n'appartenait qu'à moi de décider si je voulais aller de l'avant ou faire la navette. Histoire de briser la glace par une plaisanterie, je m'ouvris de mon indignation au voyageur assis à mes côtés. Petit et mince, il offrait un front dégarni piqué de taches de dépigmentation. De longs cheveux grassouillés cernaient sa calvitie. Un aller simple, un non-retour, c'est notre lot à tous, ne croyez-vous pas ? Rétorqua-t-il du tac au tac. C'est vrai, renchérit une grosse dame en train d'extraire un sandwich de son cabas, sous le regard attentif d'un chien noir qui n'en perdait pas une miette. On va droit dans le mur avec notre société de consommation. Et il y en a qui feraient mieux de marcher droit, commérait une décolorée, visiblement, un peu à côté de la plaque. Étonnée de voir qu'on paraissait avoir pris ma remarque au pied de la lettre, et un peu déçue que personne n'ait abondé dans mon sens, alors que rebrousser chemin me paraissait le plus fondamental, le plus incontestable de tous les droits de l'usager, j'implorai muettement le secours d'un jeune homme qui venait de lever les yeux d'un épais volume, comme pour nous enjoindre de ne pas perturber sa lecture. Le regard perdu dans une intense réflexion, Il rehaussait simultanément un sourcil et un côté de sa lèvre supérieure dans un effort désespéré pour ne pas perdre le fil de ses pensées. Mais cet être, doté d'une surprenante mobilité faciale assortie d'une coordination exceptionnelle, enfonça le clou en observant que la vie est faite d'irréversibles. « Tout choix implique un renoncement », ajouta-t-il sobrement. Et devant ma mine interloquée, il explicita cette quasi-tautologie. « En optant pour une destination, vous vous fermez à toutes les autres et à l'existence que vous auriez pu mener en restant à votre point de départ. » Ce n'était pas leur avis qui me décontenançait le plus, mais leur consensus pour situer ce débat sur le plan métaphorique. Sûr que j'aurais manqué quelque chose à rester chez moi ce jour-là. À l'arrêt suivant, j'observais les gens qui s'embarquaient à leur tour pour ce trajet dont on oublie vite où il a commencé, dont on ignore où il finira, et a fortiori quelle en est la durée, dont on sait seulement qu'il nous emmène au-delà de nous-mêmes, et qu'on en reviendra changé, en tout cas pas indemne, si toutefois on en revient. Étaient-ils tous de mèche ? Les voyages forment la jeunesse ? Cacta une octogénaire aride et parcheminée à l'instant même où le bus s'écartait de son parcours habituel. La brusquerie de ses gestes trahissait une grande vivacité. « Et la jeunesse éternelle !» gloussa l'oxygéné. Nous nous enfoncions maintenant dans un quartier de banlieue où je n'avais jamais mis les pieds. Des cubes de béton, de plus en plus uniformes, d'un orange criard, tenaient lieu de dortoir à une population de fantômes, encore au travail à ces heures. Pas âme qui vive dans ce décor morose qu'aucun commerce ni établissement public ne venait divertir. Et plus loin, quelques hangars surpassaient en laideur ces habitations standards. Des montagnes de carcasses de véhicules se décomposaient à l'air libre. Inquiète de voir qu'on s'éloignait de plus en plus de l'endroit où je comptais me rendre, je demandais bêtement où on allait, tout en sachant à l'avance que les réponses me laisseraient sur ma faim. « Droit dans le mur !» répéta la grosse dame boutinée dans sa robe à fleurs, mordant à pleines dents dans son sandwich. « On arrivera tous en même temps à Nouvel An !» glapit la momie avec un bras d'honneur à l'attention d'un automobiliste qui nous dépassait. Mon malaise s'accentua. Je me sentais exclue, étrangère à leur code, n'avais qu'une envie, quitter le navire, qui en l'occurrence était un bus aux allures de train fantôme, mais pas celui que j'aurais dû prendre. Or, il n'y avait plus d'arrêt. J'allais devoir rebrousser chemin sur des kilomètres et j'arriverais très en retard à mon rendez-vous, pour autant que je ne me perde pas en route. Je soupirais, vituperais intérieurement. Mais à y bien réfléchir, ce rendez-vous me paraissait de plus en plus futile et superficiel. Au fil du voyage, je commençais à m'imprégner de la conviction que mon devenir se jouait là, dans ce véhicule emprunté par mes gardes qui déjouaient tous mes plans. Mon voisin me fit remarquer qu'une erreur d'aiguillage avait presque toujours été à l'origine des grandes découvertes. J'eus encore un soubresaut de pensée émue pour celui qui m'attendait ailleurs à 17h45 et m'abstins de rétorquer que les grandes découvertes m'importaient moins que la chaleur familière d'un corps aimé. En réalité, le doute s'instillait, cette chaleur était probablement déjà en train de s'évaporer, et ce que j'avais pris pour de l'amour ressemblait davantage, avec l'éloignement, à de l'accoutumance. Mon attachement encore si fort tout à l'heure se bémolisait à mesure que je m'écartais de ma destination initiale. Déjà, je me sentais moins attendue et plus remplaçable que je ne l'aurais soupçonné le matin même. Enfin, le bus ralentit, s'immobilisa. J'allais pour descendre, mais constatais, encore sur le marchepied, que nous nous trouvions sur un immense terrain vague qui s'étendait à perte de vue au milieu de nulle part. Rien, à des kilomètres à la ronde, hormis une faux abandonnée parmi les herbes folles. J'hésitais. Le jour commençait à baisser, c'était l'heure dite entre chien et loup. L'intelligence, c'est de savoir s'adapter, remarqua le propriétaire du chien qui observait avidement la grosse dame enfourner le reste de son sandwich. Le bonheur, lâcha une adolescente boutonneuse, c'est être en adéquation avec ce qui nous arrive. Son visage ingrat était soudain illuminé de cette vérité fondamentale. Inutile de se croire libre quand on n'a pas le choix, proféra à son tour le lecteur. J'aurais aimé savoir si toutes ces réflexions m'étaient spécialement adressées ou si ce n'était que des phrases lancées en l'air, au gré des inspirations. Même sentait ridicule de le demander. On est si prompt à penser que tout tourne autour de soi. Cependant, il régnait dans ce vase clos une espèce d'accord tacite dont tout le monde, mis à part moi, paraissait connaître les clauses. Cette impression me confortait dans l'idée que chacun de mes gestes et l'ensemble de mes propos étaient parfaitement décalés. Or, trouver ma place me semblait une question de survie. À cet instant, la grosse dame, qui avait sans doute avalé de travers, fut prise d'une violente quinte de toux. Et de rouge, elle passait à cramoisi. À l'évidence, elle étouffait. Et les voyageurs, conscients de leur impuissance, s'employaient à regarder ailleurs, espérant leur fort intérieur que ce pénible épisode ne s'éterniserait pas. Peut-être aurait-on pu la sauver en la secouant par les pieds, mais sa corpulence dissuadait de tenter pareille intervention. Certains, pourtant, divertis par ce happening, observaient la scène en coin ou dans le reflet de la vitre avec un intérêt à peine dissimulé sous un masque de convenance. Dans un dernier soubresaut, la gourmande vira au bleu, tandis que son corps, propulsé par un spasme plus violent que les précédents, déboulait les marches pour aller s'échouer inerte parmi les hautes herbes. On eût dit que le véhicule avait vomi un poids indigeste. Un vieux monsieur se signa tout en marmonnant quelques paroles de circonstance. Un groupe de jeunes se partagea le paquet de biscuits laissé là en plan. D'autres se fendirent d'un soupir avant de reprendre le cours de leur cogitation. Une petite fille, surgie du néant, monta dans le bus qui repartit enfin avec un bruit de décapsuleur. Perdue dans ses pensées ou habituée déjà à ce genre de vision, elle n'avait porté aucune attention à la masse de chair effondrée devant le marchepied. « La pauvre, me dis-je, elle ne sait pas ce qui l'attend. » Et je ne croyais pas si bien penser. « Tu as pris ton billet ?» vérifia la blonde. « Risquer n'est pas un sport !» rappela l'octogénaire. J'avais de plus en plus l'impression de me trouver dans un asile roulant, et cette idée m'oppressait. Un profond sentiment de solitude m'envahissait, alors même que nous étions de plus en plus serrés, puisque des gens étaient montés à chaque arrêt et que personne n'était descendu. Dans un effort désespéré pour rétablir un semblant de normalité, je lançai à la ronde, sur un ton qui se voulait enjoué, « Beau temps pour la saison, n'est-ce pas ?» Silence écrasant, consternation, le bide intégral. Il faut dire que j'avais mal choisi mon amorce en ce soir de fin novembre où la nuit trop précoce le disputait à un vent glacial. La gêne m'envahit tandis que l'ange s'éternisait. Tous ses regards sur moi étaient une forme de lapidation. J'aurais aimé me fondre dans la banquette. Mon cerveau cherchait frénétiquement un commentaire qui détende l'atmosphère, mais mes velléités de relance s'enlisaient, sitôt imaginées dans le marasme des idées convenues et des sentiers battus. Elle n'aurait fait que m'engluer davantage. Personne ne me venait en aide. On eût dit qu'ils se délectaient de mon humiliation, qu'ils en redemandaient. Enfin, la fillette me délivra d'une question ingénue, renversante de pertinence. « Il va où, ce bus ?» C'était la première phrase sensée que j'entendais depuis le début de ce funeste voyage. À bout de silence, ce fut moi qui lui répondis. « C'est le voyage qui compte, petite, pas la destination. »
people are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
J'ai changé, j'ai vieilli.
J'ai changé, Barbara Carlotti. Pour conclure ce voyage, il me semble essentiel d'y mettre une pincée, non pas de sel, mais de poésie. La poésie sait si bien nous emmener, nous soulever, nous porter. Alors, si vous le voulez bien, rêvons avec la musique des mots, poème de Catherine Gaillard-Saron. Toi le poète qui t'en vas sur les chemins, qui chante avec les oiseaux et le soleil, qui parle avec le vent, le ciel et les étoiles, qui sait écouter les fleurs et les arbres, qui sait voir dans le miroir de l'eau tout ce qui n'est pas son reflet. Ô toi le poète qui sent la vie et sait la dire, qui vibre de toutes tes fibres aux caresses et aux claques de la vie, en accord avec ton cœur et tes émotions, ne t'arrête pas. Dis la vie qui passe à travers toi. Dis la vie que personne ne voit. Toi le poète, comme une source pure, tu rafraîchis la fadeur du monde, tu y fais naître la beauté et tu désaltères les cœurs secs. Écoute, et tu entendras ce qui derrière les mots fait vibrer toute vie. Écoute, et tu saisiras ce qui entre les lignes ne sera jamais dit. Ce que le cœur entend et que telle a raison, ce que l'âme comprend, baignant dans l'émotion, toute chose sensible, à jamais illisible. Car tapis entre les phrases, si tu sais te mettre en phase, est un étrange langage, ouvert à d'autres rivages. Si tu sais le déceler, si tu sais tourner la clé, c'est au monde de l'esprit que tu accèdes, l'ami. Car les mots, comme les croix, témoins de ce qui n'est plus, ne sont que les tombeaux froids de nos émotions perdues. Et les phrases les plus belles sont autant de lettres mortes quand, pour vibrer avec elles, il faudrait ouvrir la porte. Maintenant, quand tu liras, la musique tu entendras, celle qui fait parler l'esprit, celle qui fait tourner la vie. Enfin tu auras compris que pour faire vivre les mots, il faut aimer jusqu'aux mots de celui qui les écrit. Écoute, et tu entendras ce qui derrière les mots fait vibrer toute vie. Écoute, et tu saisiras ce qui entre les lignes ne sera jamais dit, ce que le cœur entend et que telle a raison, ce que l'âme comprend baignant dans l'émotion, toute chose sensible, à jamais illisible.
searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for
Heart of Gold, Neil Young. Et il est temps de fermer nos livres. Françoise Rocha était en régie, les chansons étaient choisies par Stéphanie Jovanovic. Les informations arrivent et puis la ligne de cœur avec Alain Maillard. Belle fin de soirée sur la première, il est 22h.